Le grand témoin.
Bonjour et heureuse de vous retrouver en ce dimanche pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Il s'appelle Alexis Mutanda Ngoimwana. Il est homme politique congolais, opérateur économique et chef d'entreprise. Monsieur Alexis Mutanda, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio de Radio Okapi.
Merci bien, Kelly.
Alors, avec vous, dans notre entretien de tout à l'heure, on va vous présenter auprès des auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Vous nous parlerez de votre parcours professionnel, mais aussi de votre expérience politique. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un homme politique, pas le moindre. On va en parler dans cette émission, mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Ça remonte très loin quand même. Vous êtes né le 8 juin 1940.
C'est exact, oui.
Où?
Au Kasaï oriental, disons à Tshibata, donc dans le territoire de Tshilenge.
Et c'est là où vous avez grandi, vous avez passé votre enfance?
J'ai passé mon enfance, vraiment ma très jeune enfance, parce qu'après cela, mon père, qui avait le souci de me mettre à l'école, il avait demandé son transfert à Lusambo. Vous savez qu'à l'époque, Lusambo disposait d'une grande école, disons, primaire, secondaire et professionnelle, gérée par les frères de la charité. C'est ainsi qu'en 1949, j'avais commencé ma première année primaire, que j'ai terminée évidemment en 1954. Et alors en 1955, je suis allé à l'école secondaire, disons au petit séminaire de Kabwe, parce qu'à l'époque, évidemment, Kabwe était, avec le collège de Kampondé, deux instituts d'école secondaire au Kasaï à l'époque. C'est comme ça que j'ai fait mes humanités gréco-latines dans cet institut.
C'était pas pour devenir prêtre, non.
C'était bien sûr pour devenir prêtre. C'était en fait cela ma vocation. Mm-hmm. Et alors en 1960, vous savez, avec les événements de l'indépendance, il y a eu un peu des troubles sociaux dans la région. C'est comme ça que nous avons quitté Kabwe pour Mbujimayi. Et alors là-bas, on avait aménagé évidemment la suite de l'école. Et c'est là aussi où j'ai terminé ma poésie, ma rhétorique pour terminer l'école secondaire. Et alors, à la fin de ces humanités gréco-latines, il fallait faire le choix. C'est alors que j'ai opté pour l'université plutôt que pour le grand séminaire.
Est-ce que ce sont les événements de 1960 qui vous ont détourné de cette vocation?
Pas nécessairement. Je crois qu'à un moment donné, j'ai fait l'analyse des événements et puis l'analyse de ma propre personne. Et j'étais attiré vers les études d'ingénieur. Bien que les humanités que j'avais faites étaient en fait des humanités littéraires, parce que vous savez, les gréco-latines à l'époque étaient beaucoup plus littéraires, mais on avait quand même beaucoup de physique, de mathématiques et de chimie, et j'étais particulièrement intéressé par les mathématiques. C'est ainsi que j'avais opté en fait pour faire les études d'ingénieur, et à l'université Lovanium, évidemment, cette université à l'époque m'offrait une très très bonne occasion. C'est comme ça que j'ai sollicité pour aller à l'université.
Mais on peut devenir prêtre en étant ingénieur.
Oui, c'est exact, mais enfin, vous savez, à un moment donné, il faut
faire
le choix.
Vous vous êtes dit que vous serez plus à l'aise en étant marié que de rester au couple?
Non, c'était un choix beaucoup plus intellectuel. Je me disais que je ne pouvais pas m'épanouir en tant qu'ingénieur ou en tant... Je me voyais très mal dans une paroisse, en train de prêcher, etc. J'étais beaucoup plus attiré, si vous voulez, vers, disons, des sciences. Alors je me suis dit, écoutez, de toutes les manières, on peut servir Dieu dans toute la vie, dans tous les secteurs de la vie.
Des humanités littéraires, vous faites la polytechnique à l'université.
Oui.
Pourquoi ce choix de la polytechnique? Pourquoi vous n'avez pas fait le droit, par exemple?
Par exemple, oui, en fait, vous savez, à l'époque, même aujourd'hui, après le... les études secondaires, bon, on a toujours un peu le... Mais comme je vous ai dit, depuis très longtemps, j'étais très bon en mathématiques, très bon, disons, dans le côté technique. Et puis, j'étais attiré un peu vers cette carrière, n'est-ce pas, de polytechnique. C'est comme ça que, sans hésiter, évidemment, je me suis fait inscrire à, d'abord en prius scientifique pour pouvoir, disons, faire la polytechnique. Donc, j'ai fait une année de prius scientifique et puis, en fait, suivi de 5 années d'ingénieur. Vous allez me dire pourquoi vous avez choisi l'électricité, parce qu'il y avait aussi le génie civil, la construction, il y avait la mécanique. Mais, en fait, vous savez, c'est un problème de vibration, un problème un peu de choix. C'est comme ça que j'étais attiré vers l'électricité. Je ne peux pas vous dire pour quelle raison. Voilà, c'est comme ça.
Alors, Alexis Moutanda, vous avez grandi dans quelles conditions?
Pour commencer, comme je vous ai dit, mon école primaire, c'était chez les Frères de la Charité. J'ai eu de très bons amis, l'ambiance était très bonne. Au petit séminaire, vous savez, on a vécu une vie très disciplinée, une vie, disons, orientée vers la qualité, vers la prière aussi, bien sûr.
Et en famille?
Et en famille, bien sûr. Vous savez, je sors d'une famille très, très nombreuse. Ma mère a eu 15 enfants. On a eu également une vie familiale très équilibrée. Mon père était fonctionnaire de l'État à l'époque, vous savez.
Il gagnait bien sa vie.
Il gagnait bien sa vie, moyennement, bien sûr. Ce qui fait que ça soit à l'école ou en famille, on avait une vie très équilibrée et puis une vie, disons, de communauté, quoi.
Alors, quel est le souvenir qui vous a le plus marqué? Je sais que vous avez plein de souvenirs qui vous reviennent en tête, mais est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre adolescence?
Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est beaucoup plus un peu le sens du service, le sens du travail, disons, le goût de la recherche, de l'excellence, de la qualité, et puis un peu du parfait, quoi, parce que tout ce qu'on faisait, on voulait le faire très bien. Disons, à l'école, on voulait être toujours parmi les meilleurs. Et puis au travail, que ce soit le travail manuel ou le travail, ben, on était toujours un peu poussé. C'était un peu l'éducation qu'on a reçue, quoi. Donc, on était poussé vers un travail bien fait, disons, rendre service aux autres, etc. Donc, c'était un peu... Donc, on a vécu vraiment une vie de communauté, d'aide mutuelle, et puis de travail acharné. Donc, et puis on avait des encadreurs qui pouvaient, aussi bien à l'école secondaire qu'à l'université, vous savez, à l'époque, on avait également de très bons professeurs, disons...
Des professeurs blancs?
C'était des professeurs blancs. Et on a trouvé des gens très compétents comme les Monseigneurs Gillon, comme les chanoines Clévoutz, etc. Et des grands professeurs d'université. Donc, tout cela constituait évidemment un encadrement intellectuel, moral et spirituel, vraiment suffisant pour entamer la vie, quoi.
Alexis Moutanda, vous êtes marié, père de 7 enfants. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Bon, ce que je n'aime pas dans la vie, il y a pas mal de choses, vous savez, je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas l'ingratitude.
Quel est votre plat préféré?
Bon, le plat préféré, mon Dieu. Bon, moi, je mange congolais, je mange...
Vous mangez tout?
Oui, absolument tout. Beaucoup plus des légumes congolais, en tout cas, sont excellents. Les matembélés, les pondous et tout cela, plus du poisson, parce que tous les médecins aujourd'hui vous conseillent de manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de poissons, et alors on s'est habitué un peu dans ce sens-là.
Votre nom a-t-il une signification particulière, Moutanda Mgoïwana?
Oui, dans nos villages, Moutanda n'a pas une signification particulière. C'était un nom un peu très commun, si vous voulez, dans nos villages, aussi bien du côté de mon père que du côté de ma mère, beaucoup plus du côté de ma mère. Alors Ngoïmwana, ça c'est vraiment le nom de mon clan dans mon village. Vous savez, les Ngoïmwana dans le temps, je ne peux pas vous donner vraiment la racine, mais c'était quand même, une catégorie de personnes qui entouraient souvent les chefs, qui donnaient des conseils aux chefs. Et même quand le chef décédait, ce sont les Ngoïmwana généralement qui procédaient au choix de celui qui devait le remplacer. Donc c'était quand même, disons, dans le clan, disons, une catégorie de personnes qui étaient quand même très respectées.
Alors parlons de votre parcours professionnel. Après vos études universitaires, vous êtes directement engagé à la SNEL?
Oui, j'ai terminé, comme vous le voyez, en 69, donc 1969. Et alors, c'était à l'époque, évidemment, où le président Mobutu venait de se concentrer, si vous voulez, sur le projet d'Inga. Et alors, on avait créé un comité de gestion de barrage d'Inga. Et alors, la SNEL venait, évidemment, de connaître sa première naissance. Ça coïncidait, évidemment, à cette époque. Alors, comme je vous ai dit, j'avais quand même un attrait un peu particulier pour l'électricité. C'est comme ça que jeune ingénieur, je ne me voyais pas m'embarquer dans la politique ou dans la gestion d'entreprise parce que on m'avait proposé de diriger certaines entreprises à l'époque parce qu'on avait besoin de cadres, mais j'avais choisi plutôt de commencer vraiment par le bas échelle. C'est ainsi que je suis allé à la SNEL, mais à l'époque, par manque de crédit, le bureau du président de la République avec le directeur Bissengimana, qui était directeur du bureau, qui était aussi un polytechnicien comme moi, et qui me connaissait personnellement, m'avait recommandé auprès de la CICAI, qui est un bureau conseil de la présidence à l'époque, qui m'avait aidé à aller à Rome dans les bureaux de la CICAI qui travaillait justement sur les études de conception, d'ingénierie, etc., de l'aménagement d'Inga. J'ai fait 6 mois à Rome, je suis rentré, et alors la SNEL m'a finalement engagé. Je suis allé à Zongo, à la centrale de Zongo, où j'ai passé quelques mois. Et alors, à partir de là, évidemment, je suis allé faire plusieurs stages, disons, avant de commencer réellement à travailler au dispatching de la SNEL. Et puis ensuite, il y a eu, évidemment, les projets...
Le projet Inga qui sont
arrivés. D'abord, les deux centrales d'Inga, et puis le projet Inga-Chaba, qui devait relier le barrage d'Inga à la province du Katanga.
Et c'est vous qui étiez le directeur de ce projet?
J'étais directeur de Inga-Chaba, et alors, le consortium américain qui avait pris le marché, qui avait emporté le marché, avait besoin d'un ingénieur de la SNEL, mais basé à San Francisco, qui était le centre du projet aux États-Unis. C'est comme ça que mon directeur général de l'époque, M. Nzenza, m'avait désigné, sélectionné pour que je puisse aller à San Francisco, où je suis resté pratiquement 3 ans. Et mon rôle, évidemment, dans ce projet à l'époque, était de suivre toutes les études de conception de ce projet, les études d'ingénierie, et puis suivre évidemment la commande des matériels pour la construction du projet, mettre en place les financements, hein, parce qu'il y avait un consortium de banques qui devait financer le projet, et je devais également, au nom de la SNEL, coordonner un peu toutes ces activités, et puis suivre également la société suédoise, hein, qui était spécialisée dans la matière de conversion d'énergie alternative en continu.
C'était beaucoup de choses que vous devriez faire.
Faire en 3 ans, j'étais encore très jeune à l'époque, j'avais
31
de l'université. 3 ans après, j'avais cette responsabilité. Et je peux vous assurer que je m'entendais très bien avec les Américains, avec les Suédois.
C'était la première fois pour vous d'aller aux États-Unis?
C'était la première fois. Puis,
vous parliez anglais déjà?
Bon,
moment,
vous savez,
la
je ne parlais pas anglais couramment, mais vous savez, à notre époque, on avait, comme je vous ai dit, à l'école secondaire, on avait tous ces programmes de langues, et alors on avait étudié aussi l'anglais à l'époque, et quand je suis allé aux États-Unis, je n'ai fait qu'améliorer les connaissances que j'avais déjà, et surtout m'habituer évidemment à parler cette langue qui n'était pas la mienne. Et alors j'ai fait 3 ans, et ma femme m'a suivi là-bas, et on a eu nos 2 premiers enfants, donc toujours à San Francisco, et en 76, au mois de mars, 3 ans après, on a dû rentrer ici parce que la construction, disons, du projet avait commencé, et alors j'ai réintégré évidemment la SNEL. Là, on avait étendu mes responsabilités. Je n'avais pas que la ligne Inga-Chaba, j'avais les 2 centrales d'Inga, j'avais également la ligne Inga-Kishasa qui alimente la ville de Kishasa. On avait des projets comme Katanagoma, donc on avait également la ligne Kishasa-Brazzaville, la réhabilitation du réseau de Kishasa. Donc tout cela, c'était l'équipement, et c'est comme ça que j'étais responsable de tout cet ensemble de projets. Et à l'époque, comme je vous dis, je n'avais que 36-37 ans et j'avais déjà toutes ces responsabilités. Je devais gérer évidemment les contrats, des très très gros contrats, disons des entreprises internationales comme Sadelmi, comme italien, ou des Belges ou des Français. Donc c'était une époque vraiment très 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 active où je voyageais à travers le monde. j'étais en contact avec toutes ces grandes entreprises du monde, aussi bien américaines qu'européennes, etc. Donc j'étais très très à l'aise parce que j'avais déjà suffisamment d'expérience.
C'était un avantage pour vous?
Un avantage pour moi, un avantage pour la société,
pour le pays aussi,
parce que je sais que même à la présidence à l'époque, au niveau du président Mobutu, son cabinet qui suivait un peu toutes ces choses, évidemment, je crois qu'on était quand même bien appréciés. Hein. Mais j'étais beaucoup plus apprécié par les personnes avec qui j'étais en contact de tous les jours, c'est-à-dire les Américains avec qui j'ai travaillé, les Italiens, les Français, tout ce monde.
Et vous-même, vous étiez satisfait de votre travail?
J'étais très satisfait. Je voyageais pratiquement, disons, tous les mois. Je me déplaçais partout. Je crois que je ne sais pas s'il y a un coin du monde que je n'ai pas visité à l'époque.
Grâce à votre travail.
Grâce au travail, exactement.
Oui. Aujourd'hui, la FNEL connaît de nombreux problèmes, beaucoup d'énormes difficultés. Comment on peut expliquer ça, selon vous, M. Alexis Mutanda?
Oui, vous savez, le problème est quand même assez complexe, hein, parce que vous savez, une société comme la FNEL, c'est une société principalement d'exploitation. C'est-à-dire qu'ils doivent exploiter les centrales hydroélectriques ou les centrales thermiques, ils doivent exploiter les lignes de transport d'énergie, parce que à partir de Yinga, par exemple, il faut alimenter les différents centres de consommation, comme la ville de Kinshasa, comme le Katanga, etc. Donc il y a les lignes de transport. Et puis ensuite, on doit également exploiter les réseaux de distribution, comme dans la ville de Kinshasa, hein, l'énergie qui vient d'Inga est injectée dans un poste, puis elle est distribuée à travers les communes. Alors, ça veut dire que il y a l'outil de travail qu'il faut exploiter, qu'il faut entretenir. Donc, ce qui veut dire que non seulement il faut avoir du personnel qualifié qui doit suivre évidemment toutes ces étapes, mais il faut également mettre à la disposition de ces gens des moyens suffisants.
Alexis Mutanda, vous êtes, je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes également chef d'entreprise, opérateur économique. Chef d'entreprise, je peux citer une entreprise que vous dirigez, c'est Trinitas FM.
Oui, j'ai commencé d'abord avec le journal La Tempête des Tropiques en 1990. Vous savez, avec l'ouverture politique en 1990, tout le monde évidemment avait la liberté de parole, la liberté d'écrire, et c'est comme ça qu'on a sauté évidemment sur l'occasion. On a créé ce journal qui a fait la pluie et le beau temps. Et puis en 2005, nous avons obtenu une fréquence et nous avons ouvert notre première télévision, c'est-à-dire la CNTV, Canal Numérique Télévision. Et puis, avec le temps également, on a vu la nécessité d'aller hein, comme Okapi, parce que Okapi m'a toujours impressionné. Alors, je me suis dit, bon, il me faut aussi une radio. C'est comme ça qu'on a fait les démarches. Aujourd'hui, on a Radio Trinitas, qui se débrouille tant bien que mal, mais je crois qu'il est encore au temps de balbutiement. Et nous sommes en train de faire quand même des efforts pour qu'un jour, peut-être, on puisse devenir aussi bon, aussi qualifié que Radio Capi.
Donc vous êtes patron d'un grand groupe de presse.
Nous avons aussi un centre internet, n'est-ce pas, qui lui aussi est encore en train de choses de mise en place, mais on est en train de le travailler pour que toutes nos émissions, tout ce que nous écrivons, puisse également entrer dans notre site. Et alors ce site est en train d'être également aménagé et équipé. Mais il faut dire que si je me suis concentré beaucoup plus sur les entreprises de presse, c'est beaucoup plus peut-être pour exprimer aussi nos opinions politiques. Parce que vous voyez, au départ, on avait quand même ce régime de Mobutu qui ne faisait pas toujours l'unanimité. Et puis, nous devrions exprimer quand même notre opinion et peut-être canaliser un peu aussi les opinions de beaucoup de personnes. C'est ainsi que très rapidement, on a dit que nous étions une presse de l'opposition.
De l'opposition.
Et alors,
mais ça, c'est faux.
Bon, moi-même, évidemment, je pense beaucoup aux oppositions. Alors, je crois que j'ai un peu imprimé également cette tendance dans mes entreprises.
Alors, avant de parler de votre parcours politique, Alexis Mutanda, on va souffler un peu. Comment vous passez vos moments de détente?
Eh bien, mes moments de détente, vous savez, on est en train de prendre de l'âge. Mais quand j'étais vraiment moi-même, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Je peux vous dire que j'ai fait presque tous les sports. J'ai commencé d'abord par le football, hein. À l'école j'étais très bon, j'étais centre avant de mon équipe, de l'équipe universitaire, quand j'étais à l'université Laurentium. Maintenant, plus on prenait de l'âge, on ne pouvait plus être très à l'aise avec le foot, alors je me suis orienté vers le tennis. Alors le tennis, j'ai joué également au tennis en tant qu'amateur, bien sûr, hein, pendant plusieurs années, et pendant ce temps je faisais toujours ma natation, et puis j'ai toujours aimé un peu marcher, beaucoup marcher. Donc franchement, je peux vous dire que le sport, c'est quelque chose évidemment que j'ai hérité depuis mon jeune âge. J'ai toujours beaucoup, beaucoup fait du sport, tous les sports.
Aujourd'hui, vous ne le faites plus
beaucoup. Maintenant, je le fais, mais beaucoup
plus. Vous avez
plus,
dosé quand même.
J'ai quand même dosé, je continue ma natation, je continue à marcher dans les quartiers, etc. Mais avec beaucoup de prudence, parce qu'on ne peut plus, on n'a plus les mêmes prestations qu'il y a 10 ou 20 ans. Hein.
La musique, vous écoutez?
La musique, oui, bien que je ne sois pas tellement, mais la bonne musique, ça c'est sûrement. Oui,
c'est
savez,
quoi la bonne musique?
La bonne musique, c'est la musique des grandes vedettes. Hein, des grandes vedettes, les Myriam Makeba, les James Brown, la musique classique, parce que vous savez, à l'école, nous, on a fait beaucoup de musique classique. J'ai même tenté de jouer de l'harmonium, bien que je n'étais pas très bon, mais enfin, on a également tenté. Et puis, vous savez, à notre époque, on avait toujours des chorales. Hein, et alors, à chaque grande fête, ben, tout le monde chantait pour le jour de la fête, etc. Que ça soit à Noël, ou à Pâques, ou à Pentecôte. Et toutes ces choses-là, vous savez, c'est resté, hein. Donc, on cultive toujours toutes ces choses-là.
Alors, qu'est-ce qu'on sent vous faire plaisir en ce moment?
Bon, écoute, n'importe quoi. Je crois que les techniciens, ils savent toujours comment adapter leur musique aux circonstances,
hein. Jean-Noël, hein. Jean-Noël, tu as quelque chose à nous proposer? Jean-Noël me dit qu'il va nous proposer. Myriam Makeba.
Makeba, voilà, par exemple.
Pour votre plaisir.
Voilà.
Également pour le plaisir de tous ceux qui nous suivent en ce moment, ceux qui aiment la musique de Myriam Makeba. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
My people, open your eyes and answer the call of the drum. Pretty more pretty boy, Samora Machel, Samora Machel has come. Maputo, Maputo.
parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Alexis Moutanda Ngoïmoana est celui que Grand Témoin vous présente aujourd'hui. Il est en politique congolais, opérateur économique et chef d'entreprise. Parlons de vos activités politiques, Alexis Moutanda. Vous êtes membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, depuis 1988. Qu'est-ce qui vous a attiré en politique?
Bon, vous savez, nous sommes dans un pays qui a un destin. Et le destin pour moi, le destin de ce pays, de ce grand Congo, c'est d'avoir quand même une place au soleil dans le monde. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de la mondialisation. Et alors, on peut toujours, n'importe quel Congolais peut se poser la question de savoir quelle est la place de notre pays, disons, dans ce grand concert des nations, et aujourd'hui, demain et après-demain. Ce que nous voyons, c'est que nous-mêmes, nous faisons comme mouvement également dans ce sens. Je crois qu'il y a beaucoup de soucis que nous pouvons nous faire. Beaucoup de soucis, pourquoi? Parce que il y a d'abord l'avenir qui est basé d'abord sur la jeunesse. Et quand on regarde notre jeunesse aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas avoir beaucoup de fierté d'avoir une jeunesse qui est abandonnée à elle-même. Lorsque on regarde les richesses de notre pays et la vie réelle que les gens vivent, c'est-à-dire la misère, c'est-à-dire, disons, le manque de pouvoir d'achat, eh bien, on peut se demander, mais toutes ces richesses que le bon Dieu nous a données, à quoi ça sert lorsque les populations qui sont propriétaires de ces biens ne peuvent pas en profiter?
Et c'est ce souci-là qui
m'a poussé à dire, bon, écoutez, je ne peux pas changer les choses. Je sais que ça seul, je ne peux pas changer les choses. Mais pourquoi ne pas donner aussi une contribution pour qu'un jour ou l'autre, on puisse également avoir la chance d'atteindre cet objectif. Et cet objectif, on ne peut l'atteindre que lorsque nous nous mettrons en tête que le travail est nécessaire et nous nous mettrons en tête qu'il faut de la qualité dans ce que nous faisons. Il faut que nous puissions viser l'excellence. Il faut que nous puissions viser, évidemment, l'effort que nous devons entreprendre. Donc, voilà un peu le souci vraiment majeur qui, moi, me pousse à faire la politique.
Alors, depuis 88 jusqu'à ce jour, 2015, vous êtes membre de l'UDPS. L'UDPS est un parti qui est dans l'opposition. Donc, votre parcours politique, vous le passez dans l'opposition.
Bon, pourquoi...
Avec tous les régimes qui se sont succédés, vous préférez rester dans l'opposition.
Eh bien, c'est parce qu'au départ, en 88, tout comme bien avant, j'étais encore à cette époque à la SNEL, où en tant que fonctionnaire, on ne pouvait pas faire de la politique ouverte. Mais lorsque j'ai quitté la SNEL en 86, eh bien, je me suis dit qu'à partir de maintenant, je peux aussi donner ma contribution. Et alors, quel était le parti à l'époque qui parlait du changement, parce que en fin de compte c'est le changement que nous essayons d'établir ou d'imposer dans ce pays. Le changement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire démocratiser le pays. Le changement, ça veut dire assurer l'alternance au pouvoir. Et puis le changement veut dire également l'établissement d'un état de droit. Voilà, à cette époque j'ai choisi l'UDPS parce que l'UDPS évidemment prêchait un peu toutes ces valeurs, raison pour laquelle j'ai commencé d'abord en tâtonnant, etc., comme tout le monde. Et puis ensuite, j'ai commencé à prendre des responsabilités au sein du parti. C'est comme ça que pendant 12 ans, c'est-à-dire de 97 à quelle année, à 2007, donc plus ou moins 10 ans, 2008, eh bien, j'étais chargé de relations extérieures.
Je vais revenir sur la question, Alexis Moutanda. Vous avez combattu les régimes Mobutu, l'UDPS, je parle de l'UDPS, vous avez combattu le régime de Mobutu parce que vous n'étiez pas d'accord avec la manière dont les choses s'est passées. L'AFDL est arrivé, vous avez encore combattu ce régime de l'AFDL. Joseph Kabila élu, vous combattez le régime de Joseph Kabila. Est-ce que ça veut dire que ce que l'UDPS recherche, vous ne l'avez pas retrouvé dans ces trois régimes qui se sont succédés?
Effectivement, je crois quand même que... D'abord, le premier régime que vous avez cité, c'est le régime de Mobutu. La dictature de M. Mobutu était connue de tout le monde. Je crois que jusqu'à son départ, M. Mobutu, bien qu'il avait fait une sorte d'ouverture politique, mais en fin de compte, c'était une démocratie, disons, dictatoriale. Parce qu'on a vu évidemment comment, disons, on progressait dans cette démocratie. L'AFDL arrive, évidemment, avec des grands principes. On a vu ces messieurs venir en trombe, etc. Et je crois que vous vous rappellerez qu'au début, l'UDPS avait vraiment l'espoir qu'on allait, parce qu'il prêchait aussi la démocratie. Hein, c'est ainsi que beaucoup de nos cadres étaient devenus, disons, responsables des régions ou des provinces par la volonté, évidemment, de Laurent Kabila. Mais très rapidement aussi, je crois que vous avez vu le virage, disons, que ce mouvement avait pris, surtout avec les étrangers qui étaient pratiquement, si vous voulez, les éminences grises, disons, de ce mouvement. Et très rapidement, évidemment, ces gens ont rejoint les habitudes de M. Mobutu. Hein, raison pour laquelle on a eu, disons, à un moment donné, des guerres civiles dans le pays. Le pays était pratiquement divisé entre le RCD, le MLC, disons, et le gouvernement. Ils se sont battus et jusqu'à arriver, évidemment, aux accords de Lusaka. Et après les accords de Lusaka, c'était le dialogue. Et après le dialogue, c'était le régime 1+4 que vous connaissez. Et jusqu'à présent, je crois quand même que, bien sûr, on est en train d'aller vers, disons, une sorte de démocratie, mais les élections présidentielles de 2006, les élections présidentielles de 2011, vous avez vu de vous-même de quelle manière ces élections étaient organisées. Donc, ce qui veut dire que, bien qu'il y a une tendance vers la démocratisation, mais on n'a pas encore atteint, si vous voulez, et par conséquent, aussi longtemps, si vous voulez, qu'il y a encore des déviations et des virages de ce sens, eh bien, notre rôle, évidemment, est de crier fort et fort pour dénoncer, si vous voulez, ces déviations, de manière qu'un jour on puisse atteindre, évidemment, cette alternance véritable aux choses. Et ça ne peut arriver que si on organise des élections réellement démocratiques, transparentes, et des élections évidemment populaires que tout le monde peut se retrouver.
Comment se porte l'UDPS aujourd'hui?
Oh, l'UDPS, disons, comme tous les partis du monde, je crois que l'UDPS, vous savez, c'est une grande organisation politique, mais c'est aussi une organisation humaine. Je crois que là où il y a des humains, il y a toujours des imperfections. Et alors, il y en a beaucoup qui disent, bon, il y a des dissensions internes, il y a ceci, cela, ce qui est vrai. D'abord, je peux vous dire une chose, madame, c'est que un parti politique comme l'UDPS ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et surtout, évidemment, aux personnes qui dirigent et qui ne veulent pas être critiquées ou qui ne veulent pas, disons, céder le pouvoir aux autres. Et alors, en ce moment-là, évidemment, ces gens qui n'aiment pas le parti, mais ils peuvent aussi s'organiser pour introduire, disons, des infiltrés dans le parti pour pouvoir l'affaiblir de l'intérieur et créer aussi ces dissensions artificielles. Mais je crois quand même que l'essentiel pour un parti politique, c'est garder quand même, disons, sa ligne de conduite et que, disons, sa base, disons, qui est très mûre, évidemment, comprend chaque jour qu'on peut avoir des problèmes d'opinion, des problèmes disons, d'humeur, mais que l'essentiel du parti reste en place.
Entre novembre 2008 et janvier 2011, vous étiez secrétaire général de l'UDPS. À un moment, vous avez eu des problèmes avec le président Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS. Comment sont vos relations aujourd'hui?
Bon, je ne sais pas vous parler des problèmes. Moi, je ne vois pas. Vous dites très bien qu'en 2008, je suis devenu secrétaire général. Mais lorsque je suis devenu secrétaire général, c'est-à-dire que j'ai remplacé quelqu'un d'autre. Donc, il n'est pas dit dans les statuts du parti que le poste de secrétaire général est permanent et qu'il est éternel. Donc, de 2008 jusqu'en 2011, comme vous l'avez dit au mois de janvier, j'étais secrétaire général, j'ai fait ce que j'ai pu faire pour prouver évidemment que j'avais la compétence nécessaire pour faire, disons, exercer cette
vous
fonction.
Vous n'étiez pas content de votre départ à ce poste-là?
Bon, c'est là où je veux en venir, c'est là où je veux en venir. Et alors, en 2010, on a eu le congrès. On a eu notre premier congrès au mois de décembre. Et alors, à partir de ce congrès, évidemment, moment où on a sorti de nouveaux statuts. On a sorti d'autres entités au sein du parti, comme la Ligue des Jeunes, la Ligue des Femmes, et on a sorti également d'autres commissions. Et puis, vous savez très bien également qu'en 2011, c'était l'année électorale. Et l'UDPS avait décidé de participer pour la première fois aux élections, disons, de 2011. Et alors, étant donné, évidemment, que les élections étaient quand même quelque chose de très important pour le parti, parce qu'on avait l'ambition de gagner ces élections, et alors, j'ai occupé le poste du président de la commission électorale permanente du parti. Et je suis devenu même directeur des campagnes, aussi bien des candidats aux législatives que du candidat présidentiel. Vous n'allez pas me dire quand même que c'est une fonction qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, et je me suis donné, évidemment, comme d'habitude, corps et âme. Et vous avez vu les résultats. Les résultats étaient quand même...
Vous avez perdu les élections. On a vu les résultats.
Oui, on a perdu les élections. C'est vous qui le dites. Ou c'est ça que les gens disent. Mais, vous savez, je peux vous dire que moi qui étais chargé, justement, de suivre ces élections, tout comme également d'autres observateurs internationaux, et tout le monde était unanime que cette élection présidentielle était entichée de beaucoup d'irrégularités. Quand vous me dites on a perdu, bon, c'est entre guillemets.
Comment sont vos relations aujourd'hui avec Étienne Tshisekedi, Alexis Mutanda?
Bon, écoutez, moi je suis cadre du parti. D'ailleurs, j'ai été élu parce que j'ai été élu également député.
Mais vous ne siégez pas.
Non, dans ma circonscription de Mbujimaï. Donc, je reste cadre du parti. J'ai été secrétaire général, comme vous l'avez dit. J'ai été président de la commission, donc je suis cadre. Parce que pendant que je faisais toutes ces fonctions, il y a quelqu'un d'autre qui est devenu secrétaire général.
Et alors, vous ne répondez pas à ma question. Comment sont vos relations aujourd'hui avec Étienne Tshisekedi?
Mais elles sont excellentes, madame. Je ne vois pas. Je ne crois pas qu'il y a des nuages. Est-ce qu'il y a eu une déclaration quelque part de ma part ou de la part du président dénonçant ceci ou cela? Mais je peux vous dire tout simplement qu'au sein du parti, il y a des opinions et toutes ces opinions... Et puis, vous savez, on est quand même dans une organisation humaine où il y a des jalousies, où il y a des ambitions, où il y a un peu de choses, de clientélisme. Et chacun cultive un peu ses sentiments, n'est-ce pas, de sa manière. Mais je ne crois pas que on peut dire qu'il y a un problème majeur. Hein. Je ne crois pas qu'il y a un seul moment où, entendu, où le président ou moi-même faire une déclaration dans le sens contraire à ce que je viens de dire.
Alors, vous avez été élu député national en 2011 dans la circonscription électorale de Mbujimaï, mais on ne vous a jamais vu à l'hémicycle.
Oui, c'est exact. Hein. Mais n'oubliez pas que, d'abord, j'avais des problèmes de santé. Et je crois quand même à l'hémicycle, tout le monde le sait, parce que j'ai fait des correspondances assez suivies avec les responsables, et même jusqu'aujourd'hui, si je vous dis que dans une semaine, je dois encore rentrer, disons, pour le suivi, et puis pour, disons, faire une opération qui sera quand même une opération assez importante. Donc, ça veut dire que pendant très longtemps, j'étais absent du pays d'une manière assez constante. Tout cela, évidemment, bon, ça vient s'ajouter aussi, disons, cette disposition où le parti avait demandé. Mais je crois quand même qu'avec le temps...
Ça n'a rien à voir avec le mot d'ordre donné par Étienne Tshisekedi de ne pas siéger.
Non, mais je réponds seulement à votre question que vous ne vous avez pas vu à l'hémicycle. Mais je vous explique dans quelles circonstances. Eh bien, ça coïncide bien sûr avec le mot d'ordre du président, etc. Donc, dans tous les cas, je ne crois pas que je suis ici pour, disons, élaborer tout ceci en détail.
Alexis Mutanda, la réalisation me signale qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vous êtes pro ou anti-dialogue?
Madame, à l'heure actuelle, il y a sur la table des dossiers très importants qui engage l'avenir du pays. C'est d'abord, le premier dossier, c'est le calendrier électoral. Parce que nous préparons tous les élections de 2016. Dans ce calendrier électoral, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont questionable, comme on dit en anglais, c'est-à-dire sujet à question. Premièrement, ces messieurs alignent les quatre élections principales et importantes du pays pour les réaliser en 16 mois. Nous sommes bientôt au mois de...
Vous parlez de qui en disant ces messieurs?
Les gens qui sont au pouvoir, c'est-à-dire la CENI et le gouvernement. Bon, parce que c'est eux qui nous gouvernent. Nous sommes déjà au mois de septembre. De septembre à décembre de l'année prochaine, vous avez pratiquement 15 mois. Vous pensez vraiment qu'en 15 mois, le timing est raisonnable pour organiser des élections aussi importantes que les élections locales, municipales, provinciales, ainsi de suite? La deuxième question qu'on peut se poser, eux-mêmes, que ce soit la CENI, qui est l'agence technique, n'est-ce pas, pour l'organisation des élections, que ce soit le gouvernement, que ce soit la présidence, personne ne nous dit où ils vont trouver les 900 millions de dollars qu'eux-mêmes ont préconisé pour organiser toutes ces élections. Ils font un calendrier électoral, mais ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour y arriver. Dans ce calendrier également, vous trouverez un autre problème important, c'est-à-dire les jeunes majeurs. On n'a pas fait un projet de révision de fichiers électoraux pour tenir compte de ces jeunes qui sont éligibles et qui sont également électeurs, potentiellement électeurs. Or, c'est aussi constitutionnel.
Et donc,
en plus de cela, vous venez également ajouter le découpage provincial, avec tout ce que ça entraîne comme dépenses financières, logistiques, etc., etc. Et tout cela en même temps. Alors, c'est comme ça que nous nous disons que il faut qu'on se mette autour de la table avec ces messieurs qui élaborent ce programme dans un dialogue tout à fait, sincère et sous l'arbitrage, évidemment, de l'international, pour qu'on puisse débattre un peu toutes ces questions, voir de quelle manière ils comptent résoudre tous ces problèmes qui sont des problèmes majeurs. Parce que si on ne résout pas ces problèmes-là de manière intelligente, comment on va respecter la date de la prestation de serment du prochain président de la République, qui doit se faire nécessairement et, de manière tout à fait inconditionnelle, au mois de décembre de l'année prochaine.
Et donc on retient que vous êtes pour le dialogue.
On est d'accord pour le dialogue, mais un dialogue évidemment qui doit être sous la facilitation
de la communauté internationale.
La communauté internationale qui puisse, mettre un peu tout le monde d'accord, etc.
Et si aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir acceptent votre dialogue, le dialogue que l'UDPS demande, mais sans la facilitation de la communauté internationale, vous allez y aller ou bien vous allez refuser de répondre à cette invitation?
Bon, écoutez, ça, je crois que c'est encore une fois un problème qui peut être discuté au sein du parti. Moi, je ne crois pas que je suis ici pour annoncer publiquement les positions du parti, etc.
Position à vous, M. Alexis?
Personnellement, je crois qu'il faudra peut-être analyser les éléments du dossier le moment venu, examiner le pour et le contre, et alors décider, ok, on n'a pas la facilitation, qu'est-ce que l'on fait? On a la facilitation, qu'est-ce que l'on fait? Quel est l'ordre du jour et on va parler à qui et avec quoi? Voilà. De telle manière qu'on puisse alors prendre vraiment une décision. Ce sont des choses qu'il faut faire de manière tout à fait ordonnée et de manière organisée.
Merci beaucoup, Alexis Moutanda. C'était un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin. Vous avez peut-être un dernier mot à dire à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Oui, d'abord, c'est vous remercier, Kelly, pour cette compétence, n'est-ce pas, que vous développez tous les jours dans cette radio, que j'admire d'ailleurs beaucoup. Et puis ensuite, la radio Capi, qui est vraiment un modèle, qui fait d'ailleurs la fierté, n'est-ce pas, de nos médias, nationaux. Je crois que vous avez appris que moi-même, j'ai été primé à trois reprises par une organisation internationale. D'abord à Genève, en 2013. On a eu, une reconnaissance en or. Et puis, 2014, c'était à Londres. Et en 2015, au mois de mai, c'était à New York. Et alors, vous savez, cette organisation insiste toujours sur la qualité, sur l'excellence. C'est-à-dire, il faut travailler pour satisfaire les besoins de la clientèle. C'est-à-dire, nos clientèles, c'est lesquelles? Ce sont nos lecteurs, ce sont nos auditeurs, qui doivent avoir une information objective, une information de bonne qualité, de telle manière que la personne puisse être informée objectivement. Même dans la politique, je pense que le jour où notre classe politique va également songer qu'ils sont au service du peuple congolais, je crois que la moitié de nos problèmes seront résolus.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que je recevais Alexis Moutanda Ngoïmoana, en politique congolais, opérateur économique et chef d'entreprise. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la prise de son au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.